les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Pierre Berlioz, professeur de droit, nous parle de la propriété. Troisième épisode, les aménagements du droit de propriété.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce troisième épisode consacré à la manière dont on peut aménager la propriété. Je vous l'ai dit dans l'épisode 2, la propriété confère à une personne l'exclusivité d'une chose. Alors pour autant, parce qu'on ne vit pas seul sur une île, la chose ne se trouve pas toujours nécessairement entre les mains d'une seule personne. Elle peut aussi être la propriété collective de plusieurs personnes ou être l'objet d'un droit d'usage accordé à une autre personne. La propriété collective d'abord. La propriété collective, ça peut paraître antinomique avec la propriété telle qu'elle est conçue par le Code civil, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une propriété individuelle, c'est une propriété exclusive, c'est une propriété où je peux faire ce que je veux. Dans la propriété collective, c'est plus compliqué.
Alors en plus, les copropriétaires, par principe, ne sont jamais d'accord entre eux. Oui. C'est un truc sur tous les sujets, hein, du produit d'entretien à la couleur de l'ascenseur. Madame Guillerette, là, pendant que je vous tiens, je suis la propriétaire du 1B. Ah bah, je suis pas contente, là. Bah non, ça va pas, non. Non, la rénovation de l'ascenseur. Ah bah c'est qu'en plus, ça nous a coûté assez cher, ouais. Non, c'est en rapport à la couleur de l'intérieur de l'ascenseur. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est entendu sur à la dernière AG pour top clair. Là, c'est pas top clair, c'est même pas top, hein.
La propriété collective, ce sont plusieurs propriétaires qui ont la même chose entre les mains et qui, en principe, peuvent chacun faire ce qu'ils veulent de cette chose. Donc évidemment, ça génère quelques complications. Mais pour autant, la propriété collective ne va pas sortir complètement du modèle qu'on a vu ensemble de la propriété individuelle. La propriété collective, ça reste une maîtrise d'une chose. Simplement, comme il y a plusieurs propriétaires, donc une pluralité de pouvoirs égaux qui sont susceptibles de s'exercer sur elle, eh ben ces pouvoirs égaux, ils doivent se concilier. Ils doivent se concilier. Alors ça veut dire que je peux faire de la chose ce que je veux, mais pour autant que je ne fais pas obstacle aux autres, aux droits des autres propriétaires, que donc je ne les empêche pas de jouir de la chose eux aussi. Autrement dit, et je l'avais déjà évoqué s'agissant du voisinage dans l'épisode 2, il faut en fait que les droits s'équilibrent. Donc je peux faire ce que je veux de la chose, mais pour autant que je prive pas les autres de la possibilité de l'utiliser aussi. Donc je peux l'utiliser, mais je dois aussi laisser les autres pouvoir l'utiliser. De la même manière, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet de la chose collective, mais cette décision, il faut la prendre en commun. Et là, on voit de la meilleure des manières comment la propriété collective peut se refondre dans le moule de la propriété individuelle, parce que finalement, lorsqu'on est tous d'accord pour faire quelque chose, ben, ça revient à ce qu'on soit une seule personne. Si trois personnes décident la même chose, c'est pareil que si une seule personne décidait. C'est pour ça que, dans l'hypothèse de la propriété collective, on doit décider en commun et on doit, en principe, décider à l'unanimité. Alors, ce principe, le problème, c'est qu'il n'est pas toujours gérable dans les vies quotidiennes. Et c'est pour ça qu'il a été aménagé par le législateur. Il a été aménagé, c'est-à-dire que le législateur a réservé l'hypothèse de cette unanimité, donc d'être tous complètement d'accord, il a réservé cette unanimité aux hypothèses les plus graves, les plus importantes, donc où véritablement la décision collective va toucher à l'existence ou à la destinée de la chose, par exemple le fait de la détruire. Quand on est propriétaire collectif, on ne peut pas décider tout seul de détruire la chose. On doit se mettre d'accord pour la détruire. Lorsqu'on va la transformer, on doit se mettre d'accord aussi. Parce que là, c'est vraiment l'essentiel. Après, pour les choses qui sont un peu moins importantes, ben là, on va pouvoir décider à la majorité. Simplement, il faut que le législateur le prévoie. Et ça, le législateur l'a prévu dans les deux hypothèses de propriété collective que sont l'indivision et la copropriété. Alors, vous le savez, en matière de copropriété, si vous l'avez vécu, c'est pas toujours simple. Les règles prises par le législateur sont très complexes, puisque le législateur prévoit plusieurs types de majorités, même parfois des majorités en cascade. Il faut, pour prendre certaines décisions, par exemple des travaux de transformation, il faut les deux tiers des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, constituant au moins la moitié des copropriétaires. Et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord de cette manière-là, on va pouvoir passer à une autre majorité s'ils ont décidé quand même à une certaine majorité. Donc on a une organisation qui est parfois très complexe, trop complexe sans doute, ce qui freine la copropriété, mais ce qu'il faut retenir au final, c'est cette idée d'équilibre entre les droits des propriétaires et cette idée de communauté dans la décision. Pour l'utilisation de la chose, on peut l'utiliser de manière individuelle, mais à condition que les autres puissent eux aussi l'utiliser de manière individuelle. Il faut que les droits s'équilibrent. Pour la décision, elle doit être collective, parfois unanime, lorsque on a des décisions importantes qui doivent être prises, parfois majoritaire, lorsque on a des décisions courantes qui doivent être prises, les décisions les plus simples, par exemple pour l'entretien de l'immeuble. Et donc, finalement, on arrive à avoir plusieurs personnes propriétaires de la même chose en ayant à l'esprit cette idée d'équilibre entre les droits et cette idée de communauté de décision. Cette propriété collective, il faut faire attention à bien la distinguer d'un autre aménagement de la propriété, et on ne le fait pas toujours, même les tribunaux parfois se prennent les pieds dans le tapis. La propriété collective, il faut la distinguer de l'usufruit. L'usufruit qui est une figure dans laquelle on n'a pas une propriété en commun, mais on a un droit d'usage qui est constitué, ce qui est parfois difficile à comprendre.
Je vous ai dit, suivant le codicille suspensionné par votre maman...
Excusez-moi, vous pouvez vous expliquer clairement, parce que je ne comprends pas.
Ah non, je ne comprends pas non plus le codicille.
Les rites.
Il se trouve que l'usufruit de votre quote-part entière indivisé...
C'est ce que je comprends pas. Excusez-moi, je vous permets juste, parce que je ne comprends pas l'histoire du jus de fruit. C'est quoi, ça veut dire quoi? Et puis clairement, parce qu'elle ne comprend pas.
L'usufruit de votre quote-part entière indivisé...
Non, ça va pas, non? Excusez-moi. Excusez-moi, ça m'est échappé parce que je ne comprends pas.
Moi non plus, je ne comprends pas. Clairement.
Clairement?
Oui.
Eh bien, dis l'article, ça ne va pas vous plaire, c'est en latin.
Dis.
Les datatum temporis sont...
Oh non, j'aime pas.
Alors, le jus de fruit, qu'est-ce que c'est? Le jus de fruit, ça n'est pas un droit de propriété, c'est le droit d'utiliser la chose dont une autre personne est propriétaire. C'est le propriétaire qui me donne le droit d'utiliser sa chose et d'en retirer les fruits. Le propriétaire, dans plusieurs hypothèses, l'usufruit, on le rencontre notamment en cas de décès. C'était le cas pour les trois frères. En cas de décès, on peut avoir l'usufruit pour le conjoint survivant, par exemple, ce qui lui permet de rester dans le logement, ce qui lui permet de continuer à utiliser tout ce qu'il utilisait du vivant de son conjoint. L'usufruit, on le retrouve aussi après un divorce. On le retrouve après un divorce où l'un des époux peut conserver l'usage d'un certain nombre des biens dont il ne sera plus propriétaire. L'usufruit, on le retrouve aussi pour les enfants, puisque les parents ont l'usufruit des biens de leurs enfants. Cet usufruit, il va donc naître d'un certain nombre d'actes. Ça peut être le testament, j'ai parlé du décès, ça peut être aussi une convention, ça peut être un contrat entre deux personnes par laquelle l'une des personnes va conserver la propriété, l'autre va avoir l'usufruit. Dans ce cas-là, le propriétaire n'a quasiment plus aucune prérogative sur la chose. Il a simplement une espérance de la retrouver. Celui qui va pouvoir utiliser la chose, celui qui va pouvoir en retirer toutes les utilités, c'est l'usufruitier. Le propriétaire, lui, est véritablement dans une situation d'attente. Il retrouvera la chose, une fois que l'usufruit sera éteint, en général par le décès de l'usufruitier, puisque l'usufruit, dans la plupart des cas, est un droit viager. Il s'éteint au décès de l'usufruitier, même si, dans d'autres hypothèses, il peut avoir une durée limitée, par exemple 10 ans, 15 ans, 20 ans. On peut prévoir une durée, mais en général, c'est un droit viager. Et donc, pendant toute cette durée, l'usufruitier peut faire ce qu'il souhaite de la chose, mais, contrairement au propriétaire, dans certaines limites. C'est-à-dire, il ne peut pas détruire la chose, puisque le propriétaire doit la retrouver après. Il est aussi tenu par l'usage que le propriétaire en faisait avant qu'il bénéficie de l'usufruit. C'est-à-dire qu'il est tenu par la destination, c'est ce qu'on dit en droit, il est tenu par la destination qui lui est donnée. Si, par exemple, j'ai l'usufruit d'un commerce, je ne peux pas le transformer en local à usage d'habitation ou inversement. Donc, l'usufruitier, il a juste un droit d'usage. Il n'est pas propriétaire, donc il est contraint par ce que le propriétaire a décidé à propos de sa chose. Et on retrouve bien là la distinction entre la propriété, qui est une liberté sur la chose, et le droit d'usage, qui est simplement la possibilité de faire ce que le propriétaire nous autorise à faire sur sa chose. Et c'est là la force de la propriété, je l'ai déjà dit, et c'est pour ça qu'on on recherche en général la propriété. Alors sur quoi est-ce qu'on peut être propriétaire? De quoi peut-on être propriétaire? C'est ce qu'on verra la semaine prochaine.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.